Saintes Écritures dans la seconde épître aux Corinthiens. Au chapitre 1, nous lirons ensemble un seul verset, ce sera le verset 3. Verset chapitre 1 et le verset 3 qui dit ceci: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Amen. Gloire à Dieu. Un verset très court qui nous présente Dieu et qui nous le présente en particulier sous une facette que je vais développer davantage ce matin. L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, va mentionner le Père des miséricordes. Et j'aimerais ce matin, frères et sœurs, que nous puissions méditer sur cet aspect de la personne de notre Dieu. Il est le Dieu tout-puissant, le Dieu des prodiges. D'ailleurs, on lira tout à l'heure un psaume qui énumère les exploits de l'Éternel. C'est le Dieu éternel, le Dieu qui domine. C'est le Dieu saint, le Dieu suprême. Mais il est aussi le Père des miséricordes. Et je voudrais qu'on puisse, eh bien, s'imprégner de cette réalité qui est dans la nature de notre Dieu, la miséricorde. Sa définition, elle est très simple. C'est un mot qui se compose de deux éléments, la misère et puis le cœur, parce que corde en latin c'est le cœur. Et quand on associe ces deux mots, on peut dire, en parlant de la miséricorde de Dieu, que la misère de l'homme touche le cœur de Dieu. C'est ainsi que Paul nous le révèle ici, le Père des miséricordes. Oui, nous avons découvert dans les Saintes Écritures le Dieu qui se laisse toucher par la misère de l'être humain, quelle que soit la forme. Ça peut être le deuil, la solitude, la maladie, une épreuve économique, pécuniaire, une crise psychologique, des tensions conjugales, des difficultés éducatives vis-à-vis d'un enfant difficile, que sais-je. Quelle que soit la forme de nos douleurs, Dieu ne restera jamais indifférent. Il est touché, son cœur est touché par ce qui nous concerne, nous préoccupe, parfois même, eh bien, nous ballotte dangereusement. C'est le Père des miséricordes. La miséricorde, en fait, ça pourrait aussi s'exprimer par le mot compassion. Le mot compassion, lui aussi, est composé de deux mots, et ensemble, ça veut dire pâtir avec ou souffrir avec. Quand je souffre, Dieu souffre avec moi, mais on va le voir tout à l'heure, sa souffrance n'est pas une souffrance passive, mais elle est génératrice de secours divin. Alléluia. Il est touché dans son cœur, de même que dans les évangiles, à maintes reprises, il est mentionné que Jésus était ému de compassion. Alors, dis-toi déjà cette première chose, c'est que ce que tu vis touche le cœur de Dieu. Interpelle ses émotions, ses sentiments, son amour, sa bienveillance. C'est le Dieu de la compassion, le Père des miséricordes, que le Seigneur soit béni. On a besoin impérativement que la miséricorde de Dieu repose sur chacun d'entre nous. Les apôtres, assez systématiquement, en introduisant leurs épîtres, souhaitaient à leurs destinataires que la miséricorde de Dieu leur soit donnée. Amen. Que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient données de la part de notre Dieu. Amen. Et on peut lire dans les épîtres de Paul, la seconde épître de Jean, on peut aller lire dans l'épître de Jude, d'ailleurs on va le projeter ici dans Jude chapitre 1, le verset 2, il est écrit que la miséricorde, la paix et la charité, l'amour, vous soient multipliés. Ces auteurs inspirés du Saint-Esprit ressentaient au plus profond d'eux-mêmes un besoin prioritaire dont chaque enfant de Dieu va avoir besoin, c'est que la miséricorde de Dieu soit multipliée en la faveur de tous, que Dieu soit béni. J'ai besoin de la miséricorde du Seigneur. Et tu en as besoin aussi. Ça tombe bien, il est le Père des miséricordes. Ça fait partie de son essence, de sa nature éternelle, que Dieu soit béni. J'ai impérieusement besoin de sa miséricorde. Si par malheur, je devais perdre la conscience de ce besoin impérieux, je m'exposerais à une chute imminente. Je puiserais alors mon assurance et ma sécurité dans mes propres forces, dans mes propres ressources, mon expérience de septuagénaire, que sais-je, et je ne manquerai pas de tomber parce que l'orgueil précède la chute, mais la conscience que j'ai besoin de sa miséricorde me garde humble. Que quelqu'un dise quelque chose. Par exemple, la conscience que j'ai besoin de sa miséricorde, de sa grâce permanente, de l'assistance de chaque instant. Il y a un vieux cantique qui dit « Chaque instant de chaque jour qui passe, j'ai besoin de toi. » Ma grande fille n'avait que quelques semaines, je la prenais comme cela et je lui chantais ce cantique. Alors, elle n'avait pas l'âge de dire « Amen » encore. Je lui chantais ce cantique « Chaque instant de chaque jour qui passe, en Jésus, je veux me confier. Alléluia. Et jusqu'au bout de ma course, je vais avoir besoin que sa miséricorde repose sur ma vie. Et je m'empresse de dire ceci. La miséricorde de Dieu n'équivaudra jamais à du compromis avec le péché. La miséricorde de Dieu, ce n'est pas du laxisme, une tolérance élastique, une conscience caoutchouc. La miséricorde de Dieu n'empêche pas que Dieu est le Dieu lumière et qu'en lui, il n'y a pas de ténèbres. Mais la miséricorde de Dieu, c'est cette compassion, c'est cette générosité. Vous savez, c'est ce serviteur à qui le maître dit « Oh, tu as vu le figuier là-bas, dans mon champ, là ?» Ça fait combien de saisons déjà ? Il ne m'a pas rapporté une seule figue. Et il occupe le terrain inutilement. J'ai décidé, coupe-le. Supprime-le. Et le serviteur vient vers le maître. Et en substance, il lui dit, donne-lui une deuxième chance. Patiente encore un peu. Je vais remuer la terre. Je vais mettre des ingrédients enrichissants. Je vais lui chanter un cantique. Ça, c'est moi qui le dis. Et peut-être que cette année, il va produire du fruit. Et bien ça, c'est la miséricorde de Dieu. Et vous savez, si le maître a donné d'une manière tranchante cet ordre, allez, coupe-le, c'est pas parce que c'est un mauvais maître, mais c'est parce que son intention, c'était de mettre en lumière, par la réaction de son serviteur, la primauté de la miséricorde sur la guillotine et sur le jugement froid et radical. Je ne sais pas si quelquefois je n'ai pas ressemblé à un figuier pas très productif. Je vous le dis entre vous et moi, ne le mettez pas sur Facebook, s'il vous plaît. Combien de fois il m'est arrivé dans mes moments en aparté avec le Seigneur de lui dire, mon Dieu, ça fait combien d'années maintenant que je te prêche, que je te sers, que je prie, que je visite et que je me déploie en énergie. Et quand je considère les fruits que j'ai portés, Seigneur, je ne suis pas très très loin de ressembler à un figuier pas très productif. Et la seule chose qui nous tient, frères et sœurs, c'est que Dieu exerce sa miséricorde. Il espère, il travaille, il œuvre, il encourage, il enrichit, il met de l'engrais, prédication après prédication, par son Saint-Esprit, il vient arroser les racines altérées et il met tout en œuvre pour que vous et moi, nous soyons des figuiers fertiles. Alléluia! Des chrétiens qui vont produire abondance de fruits à la gloire du Seigneur. Que Dieu soit béni. J'ai besoin que sa miséricorde repose sur ma vie. C'est une nécessité impérieuse et primordiale que le Seigneur soit béni. Écoutez, je pense pouvoir dire, quelqu'un peut-être me reprendra, tant pis pour lui, mais que tout ce que Dieu fait est une émanation de sa miséricorde. Quand Dieu visite une femme dépressive, la transforme, la sort de cette prison destructrice et en fait une femme libre et joyeuse, bien sûr c'est puissant, bien sûr c'est un prodige, mais je dis que c'est surtout une expression de sa miséricorde. Avant de guérir les paralytiques, les boiteux, les aveugles, les estropiés, je l'ai mentionné tout à l'heure, Jésus était ému de compassion. Et tous les miracles spectaculaires que par sa parole il engendrait sortaient de ses entrailles pleines de compassion et de miséricorde. Je vais simplement, on ne va pas le projeter, hein, Karim, mais je vais simplement vous lire un psaume. Vous allez écouter où il est question de la miséricorde de Dieu. Ne le lisez pas, écoutez-le. Chez vous, vous le lirez, vous l'annoterez, vous le soulignerez, le psaume 136. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde dure à toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde dure à toujours. On ne va pas aller jusqu'au bout, mais j'aimerais vous dire ceci. Il y a des passages bibliques qui sont d'une lecture facile. Moi, je lis l'histoire de Ruth, je dévore l'histoire. Je lis l'histoire de Samuel, je lis l'histoire de Joseph, et c'est des lectures haletantes, interpellante, on a envie d'y aller, hein, et d'en savoir plus. Mais quelquefois, il est des passages dans la Bible qui sont d'une lecture apparemment fastidieuse. Et le psaume 136 en fait partie. Avec ses répétitions, qui alourdissent le texte, moi, et avec la patience que vous me connaissez, j'aurais fait toute l'énumération et à la fin, j'aurais mis une fois, car sa miséricorde durera toujours, quoi. Ouais, c'était plus facile à lire. Mais là, le Saint-Esprit qui inspire ce texte insiste volontairement, comme vous savez, lorsqu'on doit taper plusieurs fois sur une vérité, sur un clou, hein. Ouais. Tous ceux qui ont essayé d'enfoncer un clou d'un coup, eh ben, ils l'ont tordu, ils ont fait du mauvais travail. Alors là, le Saint-Esprit affirme, répète, confesse une vérité. Gloire à Dieu. Et même quelquefois, après une demi-phrase, car sa miséricorde durera toujours du début à la fin. Dans ces 26 versets du psaume 136, il y a comme un martèlement pédagogique, comme si Dieu voulait nous convaincre d'une réalité, celle que sa miséricorde dure à toujours. Et même quand je lis, par exemple, « Il fait de grands prodiges », eh ben c'est pas sa toute puissance qui est mentionnée, même si c'est quand même une démonstration de sa toute puissance. Mais ce qui est mentionné, c'est sa miséricorde durera toujours. Et même quand le psaume témoigne de l'intelligence de Dieu, il mentionne sa miséricorde durera toujours. Et même quand le psaume, ici vous le vérifierez chez vous, eh bien, mentionne la mer Rouge que Dieu a fendue en deux, n'est-ce pas? Quelle autorité! Mais ce n'est pas l'autorité qui est mise en avant ici, c'est sa miséricorde durera toujours. Quand le psaume parle de Dieu qui a libéré son peuple, qui a conduit dans le désert pendant 40 ans d'une manière prodigieuse, c'est toujours sa miséricorde durera toujours. Mon frère, ma sœur, toutes les œuvres secourables que Dieu multiplie dans ta vie sont des confirmations que sa miséricorde dure à toujours. Faites-moi quelque chose. Amen. Mais plus fort que ça. Alléluia. À la Urena un peu là. Hein? Alléluia, gloire à Dieu. Mais oui. Sa miséricorde est la source de laquelle s'exprime cette démonstration diversifiée, spectaculaire, merveilleuse de secours divin. Eh bien, ça va être ma conclusion ce matin. Je crois c'est une date où la miséricorde de Dieu veut couler dans ta vie. Et quand sa miséricorde entre en contact avec ton problème, c'est le problème qui recule. Et c'est le secours de Dieu qui triomphe. Qu'il en soit ainsi ce matin, frères et sœurs. Alors quelqu'un dira, mais moi ça me fait envie ça. Moi j'ai envie que sa miséricorde soit sur ma vie et j'ai envie d'être au profit de sa miséricorde. Comment faire, frère? Comment faire? Eh bien, l'Épître aux Hébreux nous donne le chemin tout simple. Ça ne va pas être un scoop hein, ce matin. Ça va être un rappel, mais essentiel. Hébreux, chapitre 4, on va lire ensemble trois versets. Hébreux, chapitre 4, et le verset 14, 15 et 16, nous lisons ceci. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. Trois versets qui nous éclairent sur la seule démarche qui nous conduira à obtenir miséricorde. Premièrement, nous souvenir que Dieu non seulement nous a donné un sauveur en Jésus, mais en plus un grand souverain sacrificateur. Amen. Un avocat auprès du Père, mort, ressuscité, élevé, glorifié, il exerce maintenant un ministère d'une très haute importance, il intercède pour toi et pour moi, il est ce grand souverain sacrificateur et de son ciel et dans ce glorieux ministère, il compatit. Amen. Quand de son trône, il te voit dans l'arène, à t'épuiser, à essayer de contrôler les événements, il compatit. Tes luttes touchent son cœur et il traduit ceci par une intercession. Il invoque le Père Céleste afin que le secours du Dieu Tout-Puissant intervienne en ta faveur. Et nous, ayant compris cela, alors nous mettons en pratique le verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Amen. Ce matin, gratuitement et tout à fait facilement, tu peux t'approcher du trône de la grâce. Ce n'est pas le pupitre ici, hein. Non, ce n'est pas ça. Hein. Mais le trône de la grâce est accessible, là, dans ce lieu, par une décision de ta part d'orienter ton cœur et toutes tes attentes vers le Dieu secourable, le Père des miséricordes. Et le fait de m'approcher du trône de la grâce me garantit ceci. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Comment s'appelle ton besoin ce matin ? Ne réponds pas audiblement, mais intérieurement. C'est quoi ton besoin ? C'est quoi son nom ? Est-il un besoin récent ou très ancien, tellement ancien que tu as l'impression qu'il est là pour toujours ? Quel que soit ton besoin, sa complexité, son ancienneté, il y a une parole qui nous atteste ici que nous recevrons le secours de Dieu dans tous nos besoins, si nous venons au trône de la grâce, plaçant toutes nos attentes dans ce si grand souverain sacrificateur en la personne de Jésus-Christ, et pendant que je prêche, il prie. Il intercède. Moi, je veux imaginer, là, les instants que nous vivons ensemble maintenant, imaginez notre glorieux Seigneur sur son trône, ayant les regards sur chacun et sur moi-même, avec l'intention de déclencher son secours, avec les conséquences glorieuses et immédiates qui sont reliées à cette intervention divine. C'est ainsi qu'on s'approche et qu'on obtient miséricorde, que le Seigneur soit béni. Je vais revenir sur cet aspect des choses dans ma conclusion. Mais permettez quand même que j'ajoute ceci. La miséricorde n'est pas unilatérale. Elle n'est pas à sens unique. La miséricorde dont je jouis par grâce, il m'appelle à l'exercer vers autrui. C'est le deuxième pan de mes explications ce matin. Et pour introduire les réflexions qui vont suivre, je vous propose trois lectures. On va les faire à la chaîne. Luc, chapitre 6, et le verset 36 au verset 38. Luc, chapitre 6. On va lire ensemble à partir du verset 36. C'est Jésus qui parle et il dit ceci. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car, un principe spirituel ici, on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Amen. Dans le même évangile, au chapitre 10, et là, vous allez rapidement remettre le contexte. Il s'agit, vous savez, du contexte du bon samaritain avec celui qui agonise hein, le long du chemin, là, au bord du chemin. Alors, on ne va pas lire tout le récit, mais on va lire simplement au verset 37, le verset 37. Mais est-ce qu'on peut lire le verset 36 aussi, Karim ? Désolé. Jésus pose cette question. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? La réponse est la suivante. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va. Et toi, fais de même. Amen. Va, et toi, fais de même. Et puis, Matthieu chapitre 9, et on aura fait le tour de ces trois textes, au chapitre 9 et le verset 11. Les pharisiens virent cela, et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde » et non au sacrifice. Amen. Gloire à Dieu. On aurait pu lire bien d'autres textes, en particulier, vous le savez, dans les très importantes béatitudes, dans Matthieu 5, où Jésus ne manque pas de mentionner « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ». Alors, je ne vais pas être trop long, frères et sœurs, mais ce que je constate ici, c'est deux impératifs, va, et toi fais de même, enfin, deux couples d'impératifs, va, et toi fais de même, ça c'est l'objectif, et un autre couple d'impératifs, allez et apprenez. Allez et apprenez. La volonté de mon Dieu, pour ce qui me concerne, c'est que je l'imite et que la patience qu'il exerce à mon égard, les bontés qu'il me multiplie, les conseils qu'il est obligé de me répéter parce que souvent je suis un peu dur de la feuille. Alors, sa patience, sa persévérance, eh bien, je suis appelé à reproduire moi-même cette expression de miséricorde, parce que quelquefois, j'ai observé dans toutes les églises, parce qu'on retrouve un peu dans toutes les églises les mêmes profils, les mêmes situations, c'est que les choses qu'on a mis, nous, 10 ans avant de les vivre, on aimerait que les nouveaux baptisés les vivent au bout de 15 jours. On manque de miséricorde. Alors qu'on en a profité, nous, pour nous, on est tellement différent dans le calibrage de la mesure que nous utilisons pour les autres. Alors, Jésus me donne ces deux couples d'impératifs. Va et toi, fais de même. Fais ce que Dieu a fait pour toi. Exerce de la miséricorde. Et le deuxième couple d'impératifs, allez et apprenez. Oui, parce que la miséricorde, on a besoin de l'apprendre. En vous prêchant comme cela, il y a des situations que j'ai vécues dans le passé. Le Seigneur m'a pardonné, mais rien que le rappel de ces souvenirs me fait encore honte. Des situations où, lorsque j'avais 30 ans, 35 ans, 40 ans, voyez, fougueux, absolu, radical, incisif, etc., aujourd'hui, me remémorer certaines de ces attitudes et certains des propos que j'ai tenus me fait encore honte. Parce que dans les contextes concernés, c'était de ma part une absence de miséricorde. Et ce n'est pas en brutalisant, ce n'est pas en violentant, ce n'est pas en affublant et en martelant par des préceptes froids. Ce n'est pas avec le bâton que Géasi froidement a mis sur l'enfant mort que le miracle est intervenu. Mais c'est par l'attitude d'Élisée qui s'est comparé, il s'est assimilé, il a mis ses yeux sur les yeux de l'enfant, sa bouche sur sa bouche, il s'est assimilé. C'est la compassion, il a souffert avec. C'est la miséricorde. Sa misère a touché son cœur. C'est comme cela qu'à l'issue, il y a eu le grand miracle. L'enfant est ressuscité. Que le Seigneur soit béni. Amen. Apprenez. Et je pense pouvoir dire que dès l'instant où nous sommes au Seigneur Jésus, nous entrons à l'école de l'apprentissage de la miséricorde. Et voilà. Dieu veut nous apprendre à attendre l'autre joue, alors que la première nous fait encore mal, mais on tend l'autre. Dieu veut nous apprendre à prier pour nos persécuteurs. Combien de persécuteurs ont été convaincus de péché en entendant la prière de leur victime en leur faveur? Devant ce miracle, leur méchanceté viscérale a capitulé. Ils se sont jetés dans la repentance aux pieds de Jésus. Ils se sont convertis. De bénir ceux qui nous maudissent. Oui, nous sommes appelés à bénir, hein, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Nous sommes appelés à bénir. Bénir, c'est quoi? Bénir, c'est souhaiter du bien. C'est vouloir du bien. C'est demander à Dieu du bien. C'est dire du bien. Avoir des paroles qui sont porteuses de bien, d'encouragement, d'édification. Alléluia! Gloire au Seigneur! Être là dans cette démarche, mais ça s'apprend. Et j'ai encore tellement de cours particuliers avec le Seigneur à vivre pour qu'il m'apprenne à exercer la miséricorde. Parce qu'il y a un principe spirituel dont on ne dérogera pas, c'est qu'on nous mesurera avec la mesure dont nous aurons mesuré les autres. Voyez ? Voilà. Que ça puisse nous travailler. Et que l'église d'Aubagne soit une maison de miséricorde. Amen. Bethesda, la maison de la miséricorde. Que Dieu soit béni. Je termine. Je vous avais dit qu'en conclusion, nous reviendrions sur le texte initial de 2 Corinthiens, où il est mentionné le Père des miséricordes. Le Père des miséricordes. Et je ne sais pas vous, mais moi, d'ailleurs, dans la Bible, c'est la première et la seule fois où on trouve miséricorde au pluriel. C'est la seule fois. C'est le Père des miséricordes. Ce n'est pas le... Ici, il n'est pas mentionné comme étant le Dieu de la miséricorde, mais le Père des miséricordes. Et quand la Bible mentionne le Père, ben, il y a forcément cette notion d'enfantement. Dieu est celui qui a fait naître, qui a enfanté, qui a exprimé la miséricorde. C'est le Père. Alors, dans un aspect complètement différent, mais c'est pour me faire comprendre, quand Jésus dit du diable, c'est le Père du mensonge, ben c'est la même logique. C'est-à-dire que c'est le diable qui, de son fond foncièrement mauvais, a enfanté le mensonge. Vous voyez, c'est le Père du mensonge. Voilà. Mais notre Dieu, c'est le Père des miséricordes. Que Dieu soit béni. Et je termine avec cette interrogation, pourquoi le pluriel ? Pourquoi les miséricordes, des miséricordes, c'est la miséricorde ? Et là, il est question du Père des miséricordes. Et j'aimerais simplement prendre une image, frères et sœurs, elle vaut ce qu'elle vaut. Hein. Elle vaut ce qu'elle vaut. Dans quel département sommes-nous, ici ? Oui, mais ça veut dire quoi, 13 ? Les Bouches du Rhône. Il y a le Rhône. C'est un fleuve. Hein. Il y a le Rhône. Mais en approchant de la Grande Bleue, ça devient les Bouches du Rhône. C'est-à-dire que le même fleuve forme un phénomène de division. D'ailleurs, là, il y a le Petit Rhône, il y a le Grand Rhône, il y a combien de fleuves qui, en approchant soit de l'océan, soit de la mer, avant de s'y jeter, forment des deltas. Donc une diversité de bras, c'est la même eau, c'est le même fleuve, mais dans sa terminaison, il y a des bras. Je veux vraiment vous présenter cette image en priant pour que les multiples bras de la miséricorde de Dieu nous visitent ce matin. Pour chaque situation, il y a un bras de miséricorde qui correspond. Amen. Je crois vraiment que ce matin, dans la miséricorde de Dieu, les miséricordes de Dieu veulent communiquer à chacun selon la nature de son besoin. Un bras de miséricorde déversera en toi la paix qui te manque. Reçois la paix de Dieu. Que ce matin, tous ceux qui n'en sont pas détenteurs reçoivent la paix de Dieu. Seigneur, que tes miséricordes nous visitent ce matin. Certains sont venus avec une maladie et ils sont venus quand même, mais ils sont mal en point physiquement. Eh bien, il y a les bras de la miséricorde de Dieu qui véhiculent la guérison divine. Que ce matin, les malades soient guéris dans l'autorité du nom de Jésus et par la miséricorde du Père Céleste. Laisse le bras de miséricorde qui te correspond visiter ta personne. Tu es peut-être comme handicapé par ta personnalité originelle, une timidité excessive, une promptitude à t'angoisser d'une manière démesurée, que ce matin, le bras de miséricorde qui te correspond visite ton âme et opère un miracle. Que des mers rouges se fendent en deux ce matin, que des Jérichos tombent, que le désir fleurisse, que la solitude s'égaye, que le pessimisme soit expulsé de tes pensées, que tes obsessions, tes hantises qui aimantent tes pensées disparaissent et que Christ et que Christ seul devienne l'objet de toutes tes pensées. Alléluia ! Que les bras de la miséricorde de Dieu nous visitent ce matin. Je ne voudrais pas vous rendre votre liberté sans avoir un moment de prière ensemble. Oh, je ne voudrais pas qu'en partant de ce lieu, vous disiez « Oh, encore un beau message, hein ?» Non. Mais j'aimerais que vous repartiez avec des alléluia de victoire. En disant ce dimanche matin, « Oh là là, j'ai expérimenté quelque chose qui va conditionner le cours de ma marche future. » À partir de ce dimanche 18 mai 2025, je ne suis plus le même. Parce qu'il y a un bras de la miséricorde de Dieu qui a visité mon être. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on pourrait se recueillir quelques instants, s'il vous plaît ?